Madame, monsieur, chers collègues, chers amis, permettez-moi de faire des remarques préliminaires. D'abord, afin d'écrire cette conférence, j'ai mis une semaine à la Robbins Collection à l'Université de Californie, Berkeley, à lire le gros des textes légaux et jurisprudentiels de l'Italie du Nord de l'11e à la 13e siècle. Ces textes sont vraiment fascinants et en conséquence, mon propre texte est devenu très, très long. Donc, aujourd'hui, je vous ne prononcerai que deux sections. Je les ai choisies parce qu'elles reprennent l'argument de la troisième conférence en ce sens. On pourrait dire que cette conférence-là a étudié l'influence du droit civil sur l'invention du droit international public à Rome. Dans cette conférence-ci, par contraste, on étudie l'influence sur relations interpersonnelles, légales et sociales de l'internalisation parmi des citoyens des formes et doctrines du pouvoir antérieurement exercées par l'Empire romain sur les autres. Le dernier quart de siècle a vu se produire dans ce que l'on a appelé la tradition républicaine, un renouveau stupéfiant, si vigoureux assurément que ses adeptes peuvent maintenant se repartir en une série de camps différents, républicains civiques, néo-romains, néo-romains et autres. Mais il y a une chose que tous ces théoriciens, ou presque, ont en partage, c'est leur croyance dans l'existence d'une telle tradition. Et ce qui est remarquable, c'est que leurs pratiques intellectuelles ont en commun de rattacher leurs différents projets normatifs à l'un ou l'autre fil de cette tradition. J'ai aujourd'hui pour but de soumettre le projet historique à un examen minutieux, mais je ne me contenterai pas d'un pointage des faits pour le dire sous cette forme. Je cherche plutôt à mettre en question les méthodes historiques qu'ils ont utilisées, à les mettre en accusation en particulier pour n'avoir pas su prêter une attention suffisante à chacun des langages correspondant respectivement à la pensée républicaine classique, impériale et médiévale. Et en conséquence, je cherche à ouvrir des voies spécifiques d'examen dans le cadre normatif qu'ils ont élaboré sur la base de cette soi-disant tradition. Pour anticiper un point sur lequel je vais revenir dans un instant, alors qu'il existe un champ entier de la recherche intellectuelle de la fin de l'époque médiévale, de l'humanisme et de la Renaissance orienté particulièrement sur la République romaine et plus généralement sur la source de savoir sur Rome dont on disposait à la fin de l'époque médiévale, paradoxalement, ce champ a été presque entièrement négligé par ces spécialistes. En conséquence, comme je tenterai de le démontrer plus complètement dans ce que suit, la vision de la politique et de la culture politique romaine que les théoriciens républicains contemporains perçoivent et diffusent est fondée presque entièrement sur des sources impériales, et pire, souvent sur des documents normatifs de la période impériale destinée à la gouvernance de populations conquises. En conséquence, les néo-romains, mais aussi les républicains civiques, ont systématiquement méconnu ou simplement n'ont pas su reconnaître les dangers inhérents à leur projet de récupération historique. Selon ma lecture, loin de permettre le rajeunissement émancipateur de quelques conceptions de la liberté antérieure à Hobbes, la tradition romaine et néo-romaine nous alerte sur la facilité avec laquelle le langage de la loi a pu être utilisé pour masquer la domination impériale. Souveraineté populaire d'Azzo à Rome. Peut-être le héros marquant de l'histoire du républicanisme que reprend Quentin Skinner, d'une redécouverte des valeurs républicaines, est-il Porcius Azzo, qui enseigna le droit civil à Bologne entre 1190 et 1220. Skinner insiste sur deux assertions avancées par Azzo. Le premier, que bien que la plus haute juridiction soit entre les mains de princeps, n'importe quel magistrat dans une cité conserve le pouvoir de faire des lois. Et le second, que même si une entité citoyenne transfère sur un empereur son entière autorité et son pouvoir par le moment d'une lex regia, elle retient ce même pouvoir, particulièrement celui de faire la loi, pour elle-même et en elle-même, comme tout collectif. Aucune de ces deux déclarations, ni dans leur contenu, ni dans leur expression, ne sont aussi claires que ne le voudrait Skinner. Pour les insérer proprement dans leur contexte, on doit prêter attention au moins à deux caractéristiques de leur production. La fonte de l'argument produit par Azzo pour soutenir son affirmation est la source ainsi que les significations contextuelles spécifiques du langage dont il use. Pour commencer, il pourrait être utile pour les lecteurs de Skinner de savoir que, comme virtuellement tous les juristes depuis l'époque d'Auguste jusqu'au début de la période moderne, Azzo écrivait des commentaires, plutôt que, disons, des monographies. Et beaucoup de ces commentaires consistaient en notes de conférences transcrites lorsque Azzo lisait un corpus de loi d'une manière cursive devant des étudiants. Suivant la forme établie, Azzo ouvre son commentaire d'une loi donnée, d'un rescrit ou d'un terme par l'exposition laconique de quelques vœux conventionnels, suivi de temps en temps par une remarque expliquant d'où ces textes étaient dérivés, puis pouvait venir l'expression, rare mais significative, d'un désaccord ou d'une divergence de son cru, elle-même souvent défendue de la même façon dans les termes les plus brefs possibles. Ainsi, par exemple, sur la question de savoir si le peuple avait ou non retenu sa capacité de faire les lois, Azzo ouvre sa glosse par la phrase « soli imperatori ». C'est le passage 1. À l'empereur seul et ainsi de suite. Par conséquent, le peuple romain n'a pas le pouvoir de dire le droit qu'il a eu autrefois, mais par la lex regia, le peuple lui a transmis, c'est-à-dire à l'empereur, tout le pouvoir qu'il avait. Par conséquent, il semble aujourd'hui qu'il n'a aucun pouvoir. Et il continue par la phrase citée par Skinner, disons plutôt qu'il ne lui a pas transféré ce pouvoir, sinon d'une manière qui lui permette de le conserver pour lui-même. Inutile de le dire, dans une discipline complexe et institutionnalisée comme le droit civil, à l'époque d'Azzo, vieille de 1200 ans, il y avait des lois bien établies, fondées sur des conventions complexes en ce qui concerne l'analogie, le précédent et l'interprétation, qui gouvernaient la facture et la formulation ainsi que l'évaluation de l'argument. Donc, en ce qui concerne le pouvoir du magistrat de faire les lois, Azzo était seul de son opinion, parce que comme un glossateur contemporain l'écrit laconiquement, les édits de magistrats n'obtiennent aucune part de cette autorité. Non seulement aucune source de texte juridique romain qui soit disponible dans le XIIe siècle ne conforte à la vision d'Azzo, mais aucune interprétation, même extravagante, d'une telle source n'a été conservée. Qui plus est, la découverte des instituts de Gaius dans leur forme quasi classique en 1816 n'a fait que conforter l'idée qui semble maintenant parfaitement claire dans la tradition de la République romaine que les magistrats ne disposaient d'aucun pouvoir de ce type. La distinction entre la lex, la loi écrite sur le commandement du peuple, et la simple action des magistrats, même dans l'exercice de juridiction, demeurait ici fondamentale. Les arguments d'Adso à propos de la souveraineté populaire sont à la fois plus complexes et plus significatifs. À nouveau, Skinner cite les conclusions d'Adso sans rapporter ses arguments. Skinner ne montre pas plus d'intérêt pour la réception du texte d'Adso dont je reparlerai dans un instant. Suivant la tradition, Adso est revenu sur le problème du pouvoir législatif dans son commentaire du chapitre du Codex de Justinien traitant de la longa consuetudo, la coutume ancienne, qui dans la tradition romaine avait force de loi. Dans ce cas, Adso remarque que selon la loi ancienne, le peuple avait le pouvoir à la fois de faire la loi et de l'abroger par le moyen de la désuétude. Aujourd'hui, tout ce pouvoir et cette autorité juridique ont été transférés à l'empereur. Comme le rapporte Skinner, Adso intervient ici avec l'affirmation, une fois de plus, que ce pouvoir n'avait été transféré que pour la part que le peuple n'avait pas gardé pour lui-même. Adso défend cette affirmation remarquable en faisant référence à deux codes de loi, dérogation à l'égard d'un contrat per pactum, par agrément mutuel, et renonçant à une prescriptio fori, le droit de certaines personnes à voir leur cas renvoyé d'une cour séculière à une cour ecclésiastique. Hélas, selon le standard de l'érudition juridique de l'époque d'Adso, ces arguments sont complètement illégitimes. Laissons de côté les problèmes de fait. Adso avait-il la moindre preuve de ce que le monarque consentit à ce que cette souveraineté dût aussi résider dans le peuple? La dérogation per pactum faisait partie du droit civil, c'est-à-dire du droit privé de contrat de la période classique. Et la prescriptio fori était une doctrine de procédure de droit civil de la période post-classique. Aucune des deux doctrines n'appartenait à ce que les juristes romains et médiévaux désignaient comme jus publicum, droit public, le droit des magistratures et du pouvoir public, et aucune des deux doctrines de droit civil, classique ou chrétienne, n'avait force d'argument dans la jurisprudence, même par analogie, contre le droit public. Le silence complet dans lequel les affirmations d'Adso en ce domaine furent enterrées dans la tradition qui suivit peut très bien être attribué à un jugement tranquille sur la forme prise par la manière dont ils les défendent. Nous pouvons très certainement aller plus loin. Le recours d'Adso à des doctrines extérieures au droit public, c'est-à-dire extérieures à ce que nous pourrions appeler droit constitutionnel républicain, est en lui-même une preuve significative qu'il n'a trouvé aucun argument dans la tradition républicaine telle qu'elle a été pour défendre ses vues. Une enquête approfondie sur l'usage que fait Adso du concept universitas révèle des surprises similaires, peut-être encore plus fascinantes en ce qui concerne sa méthode de travail et celle de Skinner. En ce cas, Skinner déclare que l'universitas est un concept central dans les théories des corporations du droit romain. Que l'universitas, ou tout autre concept, est répandu à cette définition est une question à traiter un autre jour. Mais dans ce contexte, il faut noter que les corporations sont des entités de droit privé. Universitas n'était pas un terme technique juridique de la pensée républicaine romaine en ce qui concerne la souveraineté, le pouvoir de la majorité, ni du reste celui des magistrats. Qui plus est, si l'on élargit le champ des sources, son usage dans les discours politiques et juridiques de toute nature commence seulement au milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, quelques 200 ans après la chute de la République romaine et après que le discours républicain fut récupéré tel qu'il poursuivit de support idéologique à la domination monarchique à l'intérieur du corps de citoyens romains, en addition à la contribution qu'il apportait à la domination impériale de ce qui en demeurait à l'extérieur. Cela dit, le contraste souligné par Azzo entre le pouvoir juridique individuel et collectif dans ces empires Skinner figurait dans la pensée romaine à des niveaux variés, sous nombre de formulations et leur histoire, ainsi que leur relation à la tradition qu'Azzo tentait de réécrire, mérite attention. Pour commencer, le langage et les arguments d'un Azzo fait usage pour distinguer entre individuel et collectif trouvent leurs antécédents les plus anciens, non dans le texte juridique, mais ironiquement dans la tradition rhétorique. Or, Skinner a beaucoup ouvre pour en récupérer au service de l'histoire de la pensée politique les représentants de la fin de l'époque médiévale. Le premier témoignage sont des digressions dans les œuvres de Cicéron et de Varron, tous deux écrivains entre 55 et 45 avant Jésus-Christ, sur la relation dans l'usage de langage entre usage individuel, usage correct et usage populaire. Le texte d'Azzo cité par Skinner par morceau se lit en entier de la manière suivante. En conséquence que le peuple n'est pas exclu de ce pouvoir, mais les individus qui appartiennent au peuple le sont, cette singularité populum. Est-il en vain de même dans cet exemple? Scipion a sauvé à lui seul la cité où le peuple romain prise comme en tout. En effet, le peuple n'est pas exclu de ce pouvoir parce que ce serait faux. Mais les individus qui appartiennent au peuple le sont, parce qu'il a fait plus qu'en parmi d'autres. En conséquence, les individus sont exclus, mais non le corps civique pris comme en tout, ou le peuple, the universitas sive populus. Le passage correspondant de Cicéron intervient au début de son dialogue sur les lois, qui fut écrit à la fin des années 50 avant Jésus-Christ, à un moment où Cicéron, parlant à la première personne en tant que personnage de dialogue, distingue entre une loi transcendante qui est une raison juste existante en nature et les lois contingentes qui sont faites par les sociétés humaines pour elles-mêmes. C'est passage 2. La loi est le pouvoir de la nature. Elle est dans l'esprit et la raison de l'homme sage. Elle distingue la justice et l'injustice. Mais dans la mesure où notre parole est fondée sur un usage populaire, nous devons parfois parler en termes populaires et nommer loi ce que prescrit par écrit ce qu'on veut ordonner ou interdire, comme le nomme le peuple. Cicéron trace ici une distinction très nette entre quelques vrais sens cachés du mot « loi » et son usage populaire, où il juge que le mot est employé par catacrès. En ce qui concerne les notions d'individuel et de collectif, il faut remarquer que, bien que le sujet de Cicéron soit juridico-philosophique, l'usage qu'il en a fait est largement non constitutionnel et certainement largement non-politique. Ce qu'il cherche à déterminer dans ce cadre est la responsabilité de la personne à l'égard des deux systèmes de valeurs, le premier métaphysiquement supérieur, le second socialement correct et, semblerait-il, pragmatiquement essentiel. Les termes employés par Varron dans son livre sur le langage latin sont beaucoup plus précis et paradoxalement beaucoup plus juridique. Il n'est certainement pas difficile d'imaginer qu'il fait, ainsi usage de langage de constitutionnalisme populaire en une aimable imitation de Cicéron, son correspondant et son ennemi. Chacun semble avoir grandement admiré l'œuvre de l'autre. Dans le passage en question, Varron traite de la relation entre usage théoriquement correct et usage régulier. C'est le passage 3. Car certains mots et certaines formes représentent l'usage du peuple en tant que tout, d'autres appartiennent aux individus. Et parmi ces derniers, les mots de l'orateur et du poète ne sont pas les mêmes, parce que leur us, leur statut juridique, n'est pas le même. Et dans nous 6, car le peuple a pouvoir sur lui-même, les individus sont en son pouvoir. Ainsi comme chacun doit corriger son usage s'il est mauvais, ainsi le peuple devrait corriger son usage. Je ne suis pas le maître, pour ainsi dire, de l'usage du peuple, mais il est du mien. Le problème discuté par Varron est d'une certaine manière directement analogue à celui soulevé par Cicéron. En matière de langage, affirme Varron, on pourrait distinguer entre usage correct, usage populaire et usage personnel. Comme en matière de loi, Cicéron distingue entre la loi de nature, la loi écrite et la conduite individuelle. Comme Cicéron, Varron affirme que dans la plupart des cas, en conséquence du statut juridique de l'individu, la conduite individuelle doit se conformer à la règle que s'est donnée le collectif politique. Dans ce contexte, parler de peuple comme dans tout reflète des simples réalités constitutionnelles. Aussi bien en s'exprimant dans un langage de constitutionnalisme populaire contemporain, les auteurs latins de l'époque de la République utilisent toujours un singulier collectif lorsqu'il parle des communautés autonomes et organisées démocratiquement, en particulier de la leur, dans l'exercice de leur capacité législative. Ainsi, par exemple, dans la plus ancienne loi romaine conservée pour laquelle nous ayons un accès indiscutable à la formulation originale, au lieu, par exemple, d'une paraphrase ou citation dans un langage modernisé. Je parle de la loi agraire de 111 avant Jésus-Christ. Le texte de la loi fait référence à sa propre mise en œuvre comme suit. Le magistrat qui aurait été créé ou mis en pouvoir par cette loi doit agir dans les 250 jours à partir du moment où le peuple ou la plèbe aura ordonné cette loi. De même, l'action du magistrat qui contraignait le peuple, tout particulièrement en ce qui concerne la signature des traités ou la déclaration de guerre, était jugée illégitime quand elle était accomplie in usu populi, sans le commandement du peuple, ou selon la formulation plus large mais polémique de Cicéron, qui date de 63 avant Jésus-Christ, aucun magistrat ne peut avoir le potestas, le pouvoir in usu populi aut plebis, sans le commandement du populus ou de la plebs. La littérature jurisprudentielle n'emploie pas un autre langage en usant de collectif populus pour dénommer la source du pouvoir souverain de faire la loi dans l'État. Dans la formulation de juriste Ateus Capito, qui servit comme consul suffecte, sur le règne d'Auguste, en 5 après Jésus-Christ, et dont la carrière fut à cheval sur la transformation de la République en monarchie. L'ex, la loi, c'est-à-dire la loi écrite, est un commandement général du peuple ou de la plèbe, quand un magistrat l'a mise au vote. La formulation de Capito fut reprise avec une légère altération par Gaius dans ses instituts, et à nouveau par Trebonien dans ceux de Justinien. Et elle est citée sous cette forme par presque tous les juristes de la tradition italienne à la fin de l'époque médiévale. La lex est ce que le peuple commande et établit. Ou la lex est ce que le populus romanus a décidé quand un magistrat sénatorial l'a mise au vote. Les formulations de Capito et du Tribunien reflètent de la même manière la réalité à laquelle je faisais allusion plus haut, c'est-à-dire que le peuple ne délibérait pas, mais votait seulement. En réalité, il pouvait même ne faire que se réunir quand un magistrat le convoquait en assemblée. Comme nous le verrons, les formes linguistiques et constitutionnelles de la République romaine rendaient possible la formulation, bien qu'il n'ait pas fourni un précédent pour les affirmations correspondant toujours associées avec de telles définitions du droit dans notre tradition républicaine ultérieure, à savoir que les monarques constituent une source prééminente de droit, mais ne sont pas liés par lui. Retournant vers Rome, son usage par la suite se confirme d'une autre manière à la pratique républicaine, en ce qu'il emploie « universus » comme un adjectif. Dans son texte, le mot est au singulier parce qu'il modifie le collectif singulier « peuple ». Là où « universus » est utilisé comme substantif pour désigner tout le peuple, signifiant en particulier tous les membres de la cité. Il apparaît dans la littérature républicaine et dans l'Empire au pluriel, surtout dans la phrase consensus universorum, par le consentement de tous. Le pluriel est important idéologiquement, bien que l'unanimité du corps civique exprimée par la phrase soit fictive, le pluriel certifie que tous ont été d'accord. Le concept trouve une expression mémorable dans la définition fondatrice contractuelle de populus, à laquelle je faisais allusion plus haut. Un populus n'est pas un assemblage d'êtres humains rassemblés en troupeau pour une raison quelconque, mais le rassemblement d'une multitude unie par un engagement consenti à un ordre normatif particulier et un intérêt commun. Cicéron lui-même endossera par la suite l'importance à la fois du consensus universel et de l'engagement individuel dans une comparaison remarquable sur laquelle se ferme le livre 2 de De Republica. De même aussi, l'État, par une balance raisonnée entre les ordres les plus élevés, les plus bas et les intermédiaires, est rendu harmonieux par les concords de gens très différents, dissimilorum. Le problème de la concorde préoccupait évidemment Cicéron, et il n'était pas le seul. Hélas, nulle part dans ce que nous reste de son œuvre, il ne souligne en substance par quel mécanisme le consensus allait être obtenu parmi des citoyens parfaitement dissemblables. Le superlatif est important. Mais comme les très grandes différences internes au peuple étaient respectées et véritablement protégées, Cicéron désigne ainsi deux très grands problèmes de politique et des théories politiques presque entièrement négligés dans les travaux sur les républiques romaines. Sa conscience des problèmes posés par un système majoritaire et les garde-fous élevés contre lui, et d'autre part la nature précise des engagements affectifs, culturels et existentiels occasionnés par une appartenance communautaire et la vision que l'on peut en avoir. Le langage de Varron aussi désigne ce problème et dans sa grande aisance suggère que l'expression n'en était pas nouvelle et qu'elle n'était soumise à aucune restriction. Mais la métaphore finale de Varron pointe dans une direction différente de celle de Cicéron, car son assimilation complexe de la raison au capitaine par rapport au peuple, mais du peuple au capitaine par rapport à l'individu, Varron réalise le potentiel latent dans les singuliers collectifs tels que populus dans le langage politique pour accorder le pouvoir d'agir à la fois politique et cognitif à des collectifs et en faisant ainsi pour réclamer de plus l'homogénéité que la concorde. C'est vers la conséquence que cette série de problèmes entraîna sur la monarchie républicaine romaine que je me tourne maintenant. La deuxième section, le monarque comme magistrat et le monarque comme État dans la Rome impériale. La monarchie fut établie à Rome sous Jules César et son petit neveu Octave, que César adopta dans son testament, qui, après avoir changé plusieurs fois d'identité, prit le nom d'Auguste sur une motion de Sénat. Il va sans dire qu'il s'agit là de l'événement le plus intensivement étudié de toute l'histoire de l'Antiquité. Dans ce que suit, je ne me concentrerai pas sur les événements par lesquels cette transformation se produisit, mais plutôt sur quelques-unes des manières dont la tradition dite républicaine fut elle-même marquée par l'empreinte particulière du principat d'Auguste. Il est surtout crucial de se souvenir qu'Auguste arriva au pouvoir au moins en partie en exploitant les formes de droit constitutionnel républicain et se maintenant au pouvoir par les mêmes moyens. C'est là l'un des grands motifs de son autobiographie que synthétise sa proclamation de ne voir accepter aucune magistrature établie contra morem maiorum, contre la coutume des ancêtres, et les grandes lignes de la façon dont il parvint sont exposés avec une précision exceptionnelle par Dion Cassius. Mais nous disposons également de sources presque contemporaines sous la forme de notices portées sur des calendriers publics dans toute l'Italie, et ces sources confirment largement ces descriptions rétrospectives, sinon intéressées. C'est donc tout à fait correctement qu'Auguste pouvait décrire le triumvirat comme le résultat d'une décision du populus, par lequel celui-ci l'avait fait triumvir rei publicae constituendae, l'un des trois membres du comité chargé d'organiser l'État. Nous savons par Appien que cette mesure fut prise non par stricto sensu par une élection en tant que telle, mais par un plébiscite proposé par les tribunes Publius Titus et par le fasti collationi contemporain. Nous savons que le lex titia avait été passé le 27 novembre 43 avant Jésus-Christ et que les pouvoirs devaient expirer 5 ans plus tard. Ce processus avait été tellement bien organisé entre Auguste et ses appuis dans l'État et au Sénat que, pour reprendre la célèbre formulation de Tacite, en dépit de la concentration dans les mains d'Auguste de tous les pouvoirs distincts du Sénat, des magistrats et des lois, et adem magistratum vocabula, les intitulés des magistratures demeuraient les mêmes. Le fossé ainsi créé entre le langage et les réalités qu'il était appelé à décrire constitue un thème dominant des annales de Tacite. Un autre thème était constitué par les dissonances introduites dans les statuts et les ruptures similaires apportées dans les formes préexistantes de différenciation sociale par les futurs possibles du pouvoir monarchique, dont l'un en particulier ne pouvait être nommé dans le langage contemporain. Avec le temps, naturellement, la théorie politique et la pratique juridico-politique se remirent à l'unisson des événements. Et la dépendance d'Auguste à l'égard du constitutionnalisme romain remit entre les mains de juristes du Haut Empire le principal outil au moyen duquel ils cherchèrent tout à la fois et légitimité et légitimer et à contraindre le droit qui régissait les affaires antérieures de l'Empire. Quant aux juristes et aux rhétoriciens du nord de l'Italie, qui entre le XIe et le XIIIe siècle dépendaient justement à ces sources de la période impériale pour le contenu, le langage et l'argumentation, ils transmirent à l'histoire ultérieure de l'Europe un proto-républicanisme d'emblée obsédé par un pouvoir monarchique dont il était en soutien sans faillir. Examiner la Lex Regia, décrite par Oppian, comme la mesure par laquelle le populus transmet au princeps tout son pouvoir et ses capacités à légiférer. Si véritablement tous les pouvoirs et toutes les prérogatives de la charge impériale étaient remis à l'empereur à l'époque d'Oppian par un seul acte, et on a quelques raisons de penser que cela fut vrai, cela peut bien avoir été une innovation de la troisième décade du IIIe siècle après Jésus-Christ. À une époque aussi tardive que le règne d'Otan, un bon siècle après l'établissement de la monarchie, les empereurs étaient encore élus à une série de charges séparées, par des votes séparés de l'Assemblée et en des jours séparés, rien de moins. Ainsi, quand Auguste proclamait son adhésion à la tradition républicaine constitutionnelle, il disait vrai que dans le sens limité mais important que chaque charge unique et chaque pouvoir qu'il tenait avait assez souvent un précédent, mais personne auparavant n'avait tenu autant de charges aussi importantes au même moment, et personne d'autre non plus n'avait de près ou de loin exploité la possibilité, depuis longtemps disponible dans le droit romain, que l'élection à une magistrature puisse être séparée de l'acte législatif qui en conférait le pouvoir. Qui plus est, comme le Lex sur les pouvoirs de Vespasien le met en lumière, il y a longtemps paru nécessaire de voter aux empereurs successifs un nombre croissant de privilèges qui n'avaient jamais appartenu aux magistrats, le pouvoir de signer des traités et d'autres, incluant d'une manière controversée qu'ils soient déliés de certaines lois et plébiscites. Comment, partant de l'octroi aux empereurs d'une exemption spécifique, en avant à leur donner carte blanche, en les proclamant legibus solutus, fait évidemment partie de l'histoire que je cherche à raconter, mais n'a pas besoin d'être rapportée ici. En d'autres mots, le peuple et les sénats de Rome choisirent d'offrir par la loi des pouvoirs que l'empereur aurait parfaitement pu s'arroger. Et, dans cette perspective, la Lex Regia, comme cela finit par apparaître, devrait être comprise comme la codification d'un long processus de négociation, au cours duquel les empereurs consentirent à accepter plutôt que revendiquer des pouvoirs et concédèrent ainsi que la source de ces pouvoirs reposer dans les corps souverains d'autres qu'eux-mêmes. Pour comprendre précisément de quel bagage cette longue histoire a chargé la tradition républicaine, il est nécessaire de jeter un regard à la fois en arrière et en avant sur les théories pré-monarchiques de la magistrature et de la souveraineté, sur la transformation sous les premiers monarques romains et sur leur réception dans les communes italiennes. Dans les deux derniers siècles de la République romaine, la seule période pour laquelle nous ayons des preuves solides concernant ces problèmes, les théories relatives aux magistratures furent remarquablement peu développées. On distinguait des magistrats d'un niveau plus élevé par la possession de l'imperium et de la jurisdictio, le premier donnant le pouvoir de commander et aussi de punir les citoyens romains, et la seconde évoluant vers le pouvoir de donner une description faisant autorité d'un conflit juridique privé, ensuite de quoi? Ou bien eux-mêmes rendaient une personne le jugement en la matière, ou bien ils assignaient un juge délégué pour entendre les preuves se reportant au cas tel que le magistrat l'avait défini. Chez les écrivains du début de l'Empire, il est vrai, l'impérium des magistrats, le pouvoir de commander, était compris comme analogue au pouvoir que les rois de Rome avaient autrefois exercé, et peut-être comme en dérivant historiquement d'une manière très libre. Mais pendant toute la période de la République romaine, on la distinguait de toutes les manières possibles, avec insistance et rigueur, du pouvoir royal. D'abord, le pouvoir des magistrats était contraint de trois manières, opérant à la fois de jure et de facto. Toutes les plus hautes magistratures à Rome étaient collégiales, il était entendu que le veto d'un seul consul bloquait l'action de l'autre. Pour virtuellement toutes les magistratures, la durée d'une charge était limitée à une année et les citoyens conservaient un droit d'appel, appelé provocatio, conçu de telle façon qu'aucun citoyen ne pouvait être mis à mort in usu populi, sans l'accord du peuple. La seconde contrainte sur le pouvoir des magistrats qui les distinguait clairement de l'autorité royale telle que les Romains le comprenaient est à la fois plus abstraite, mais aussi plus significative. Ce dont le peuple investissait les magistrats n'était pas la souveraineté. Ce n'était même pas au sens étroit omne suum imperium et potestatem, ou tout son ius, pour citer les formulations respectivement d'Oppien et de Justinien en ce qui concerne la lex regia. C'était plutôt pour certaines charges en simple imperium et pour d'autres pouvoirs spécifiques des potestates. Et la procédure distinguait les remises de ceux-ci par une assemblée de la remise de l'autorité religieuse qui, formellement, rendait possible à strictement parler l'entrée en fonction dans tout poste de commandement. De là vient que la loi passée par l'assemblée curiate, appelée l'élection de magistrats par l'assemblée quinturiate, était à strictement parler une lex de imperio. Sous la République, la terme lex regia faisait référence à l'une des nombreuses lois essentiellement de droit privé, encore opérationnelles, dont on pensait qu'elles dataient de l'époque où Rome était gouvernée par des rois. Donc, de manière officielle, les magistrats de rang élevé ne pouvaient faire de loi ou lier le peuple par un traité, pas plus qu'ils ne pouvaient faire exécuter un citoyen. L'importance de ce fait apparaît dans les instruments juridiques. Même comme les rois prenaient la forme des décisions ou d'ordres du peuple, interrogante magistratu, comme c'est le cas dans les traités romains, l'agent qui se lie lui-même est le peuple. Le contraste émerge avec une clarté particulière dans les traités signés avec des rois. Les peuples démocratiques souscrivent en tant que collectif, alors que le pouvoir d'un roi est personnalisé à un tel degré que, parfois, on n'indique même pas de quel peuple il est roi. Le concept de souveraineté à Louvre ici semblerait unitaire, avec tout ce que cela pourrait impliquer pour les tentatives légalitaires du Haut Empire de décrire le pouvoir du souverain comme étant celui du peuple, quand l'on lui transférait par un acte législatif. La distinction républicaine entre l'impérium des magistrats et la souveraineté populaire, puis plus tard la souveraineté monarchique, est rendue jusqu'à un certain point par Cicéron, dans une brève remarque des devoirs, dans lequel il distingue les devoirs du magistrat de ceux des citoyens ordinaires et de ceux des résidents étrangers. Le passage 5. Je n'outrepasse pas mon propos en évoquant aussi les devoirs des magistrats, des personnes privées, des citoyens et des étrangers. C'est la fonction particulière des magistrats de prendre conscience qu'ils assument la persona, le rôle ou le masque de la civitas, et qu'ils doivent soutenir son dignité et son apparence pour préserver les lois, pour administrer la justice et pour avoir le souci des choses qui ont été confiées à son bon foi. Ce passage a été souvent cité par les intellectuels italiens de la fin de l'époque médiévale, mais il n'a pas été bien compris et leur confusion a depuis été encore aggravée. Leur difficulté reposait précisément dans le terme même de persona, le masque de théâtre et par métonymie le rôle, que comme métaphore servait bien Cicéron parce qu'elle respectait la distinction ontologique et juridique qu'il traçait entre le magistrat et le peuple. La dérivation moderne des mots « personne » et « personnalité » du latin « persona » a eu l'effet commun d'induire une confusion entre les champs sémantiques des termes modernes et de leur ancêtre étymologique. En fait, les termes anciens animent des structures conceptuelles tout à fait distinctes. Tout cela changea à la fin du règne d'Auguste et de celui de son fils adoptif Tibère, relativement à la charge qu'Auguste occupait, mais qu'il avait mis beaucoup d'efforts à ne pas nommer. L'évolution fut capricieuse et non linéaire, mais ne peut pas moins être décrite de manière simple. En bref, l'empereur était crédité de la maestas, mot d'où dérive le moderne majesté, mais qui signifie exactement la supériorité. En anglais, on peut traduire maestas comme greatness. C'est, je crois, le seul nom abstrait en latin qui soit dérivé d'un adjectif au comparatif. Par crédité, j'entends ce que suit. Les personnes qui cherchaient à des décrets variés à gagner la faveur de l'empereur ou simplement à éliminer des ennemis en accusèrent d'autres de manque de respect à l'égard de la maison impériale par des accusations de maestas. Et dans la mesure où les empereurs permettaient au process d'avoir lieu et où les personnes étaient condamnées, les différents ordres de la classe gouvernante collaborèrent pour provoquer une révolution étonnante de la pensée politique. En quoi consistait cette révolution et la nature des effets peut être expliquée comme suit. Sous la République, maestas, supériorité, était une qualité attribuée par les documents romains uniquement au peuple romain et invoquée exclusivement dans les affaires étrangères. Son origine est assez obscure, mais son importance ne l'est pas. On entendait de la part des autres communautés politiques, qu'elles soient libres, alliées ou sujettes, le respect de la maestas du peuple romain. Si elle y manquait, les magistrats romains recevaient régulièrement l'ordre du peuple de veiller à leur palais. Inutile de le dire, la maestas ne pouvait appartenir car l'une des deux parties de toute relation bilatérale qui en s'instituait. Et c'est ainsi qu'au sein d'une idéologie romaine de l'impérialisme, le concept travaillait à justifier une expansion à l'étranger toujours plus lointain. En conséquence, sous la République, en dépit du statut du terme populus comme singulier collectif, on ne pouvait jamais en concevoir le peuple comme ce que nous pourrions appeler une personnalité de façon à pouvoir situer le maestas d'abord d'une personne métaphorique et donc son transfert en direction à l'intérieur d'une personne réelle. En outre, bien qu'on affronte à l'égard du magistrat romain à l'étranger peut être interprété comme un affront à la supériorité du peuple romain, les magistrats n'étaient pas tout le temps perçus comme tels. De là, l'importance de la précision philologique dans l'interprétation de la persona de Cicéron. Paradoxalement, dans la sphère antérieure, les seules personnes connues pour avoir été accusées de maestas, comme le crime fut connu par abréviation, étaient en fait magistrats lorsque les actions qui suscitaient l'accusation furent commises. Cela dit, notre connaissance de loi elle-même et du process auquel elle donnèrent lieu repose presque entièrement sur des reports ultérieurs et sur des affirmations tendancieuses de la part des de la part des participants aux actions judiciaires. Il n'est par conséquent pas entièrement établi que les textes législatifs républicains sur la maestas, les premiers d'entre eux datant de 100 avant Jésus-Christ, environ ce qui est réellement tard, et offert une description générale de ce que la maestas devait être ou de la manière dont on pouvait lui faire affront, ou en contraire, et criminaliser des actions tout à fait spécifiques. On ne sait pas non plus si les auteurs envisageaient que n'importe qui, autre qu'un magistrat, puisse être soumis à cette loi. Chose importante dans le contexte présent, une autre raison de notre ignorance au sujet des lois sur la maestas dans la République romaine réside dans le désintérêt complet que montraient à leur égard les juristes de la monarchie. La perspective historique des chapitres consacrés à la maestas dans le digeste justinien commence ainsi avec la loi sur la maestas passée sur une motion de Jules César lorsqu'il a été dictateur, au moment où la confusion sur le lieu où il résidait, pour ainsi dire, la supériorité du peuple était déjà évidente. Sur un autre plan, et de la même façon, ce fut en relation avec les accusations de maestas que l'empereur Auguste commença d'abord, tout à fait illégalement, comme il se trouve, à tenir des tribunaux in camera. Nous sommes là en présence d'une tentative de s'affronter à la fois avec les distinctions qui importaient pour le droit romain et simultanément avec le bouleversement dans un lexique historique anonyme produit à Bologne au début du XIIIe siècle, mais maintenant conservé au Vatican. Le crime de maestas, déclare-t-il, est dit être de deux sortes, contre Republicum et contre Imperium. Dans le droit républicain, cela n'aurait bien entendu aucun sens, car la maestas ne résidait pas de jure dans les magistrats, mais à la lumière des pressions que la monarchie exerça sur le constitutionnalisme républicain, il est aisé de voir à quel point une telle confusion était inévitable. Autoriser que le manque de respect à l'égard d'Auguste et plus tard à l'égard de Tibère soit compris comme une insulte à l'égard de la maestas du peuple romain constitue une part de la révolution conceptuelle et sociale qui ne trouva une formulation que graduellement dans le discours politique théorique contemporain et, comme je l'ai montré, culmina dans la Rex Regia d'Ulpium. Mais cette révolution comprenait plusieurs composantes concomitantes et des conséquences qui méritent d'être examinées attentivement ici. Je me concentre sur trois d'entre elles. D'abord, l'attribution de la maestas à la personne de souverain devrait être comprise comme consécutive à l'attribution de la personnalité et de la singularité à des collectifs politiques. Ce n'était là qu'une partie d'une plus longue histoire au cours de laquelle de telles attributions ont élargi leur champ d'application. Ce n'est pas pour rien que les différentes doctrines juridiques par lesquelles on décrit dans les textes juridiques romains les décisions collectives comme éminentes d'un agent homogène et singulier, son universitas, son tout, jaillissent toutes des sources de l'époque impériale. Loin de représenter un aspect neutre du droit romain des corporations, comme le voudrait Skinner, elle donne la parole à un majoritarisme pernicieux et rampant qui était simplement latent dans le républicanisme de la Rome républicaine, mais qui s'infiltra dans le code civil où il ne trouva sa pleine formulation qu'après qu'il eût été complètement intégré dans le droit public. Même ainsi, il était encore nécessaire au début du IIIe siècle d'expliquer que les décisions prises par la majorité pouvaient être imputées à tout et affecter tout le monde. Et le juriste, en conséquence, continuait à utiliser le pluriel universus plutôt que le singulier collectif pour expliquer cela. L'universitas, dont Skinner pense qu'elle a été récupérée du code civil romain, pour être utilisée dans les débats sur les souverainetés populaires dans l'Italie du XIIe et XIIIe siècle, trouve ainsi son origine dans les changements constitutionnels créés d'abord pour légitimer la domination monarchique et mobiliser ensuite afin d'effacer les vues minoritaires. En second lieu, avec la disparition sous les principes de la provocatio, le droit d'appel du citoyen, nous pouvons évaluer le degré auquel l'attribution de la maestas à l'empereur exprimait réellement l'intégration de la souveraineté populaire à sa personne, aussi bien que le degré auquel, les protestations d'Auguste mises à part, le principat revenait en fait à bien qu'une agglomération de charges. Bien qu'elle puisse ne représenter que la réflexion des réalités de la politique du pouvoir, la nature sans appel possible des deux condamnations devant l'empereur, aussi bien que les condamnations pour injure à sa personne, peuvent aussi être analysées en termes constitutionnels, comme reflétant le statut de l'empereur comme peuple. Admettre les appels au peuple par-dessus l'empereur serait revenu à un déni de l'identité essentielle entre sa personne et son ius et sa potestas que le concept de maestas exprimait nettement, bien qu'obliquement. En troisième lieu, l'attribution de la maestas au princeps avait des conséquences directes pour le discours romain sur la liberté, sous divers aspects qui devraient alarmer les républicains néo-romains. Comme je l'ai dit, sous la République, la maestas était un concept des relations extérieures. La situer dans un individu, même magistrat, faisait entrer dans le jeu des affaires antérieures parmi les citoyens la rigueur logique de la domination que Rome avait longtemps exercée collectivement sur des peuples étrangers. En conséquence, le principe supérieur régissant les relations sociales romaines était nécessairement et toujours gouverné par une insistance absolue sur la supériorité de l'une des parties, une personne, par rapport aux autres. L'histoire du peuple florentin de Leonardo Bruni, dont le premier livre fut terminé en 1416, porte témoignage d'une compréhension incisive, quoique imparfaite, de ce moment, quand Bruni fait cette observation sur l'établissement de la monarchie. C'est passage 6. À partir de ce moment, les empereurs commencèrent à être choisis et le mot « impérator » qui auparavant avait évoqué « âme et forteresse » fut introduit, pour ainsi dire, dans les murs de la cité, comme pour montrer une continuelle guerre civile. Le mot désignait encore une fonction légitime, mais en réalité, il signifiait « seigneurie et domination ». Environnés de troupes en armes, les citoyens étaient asservis par intimidation. Le problème était naturellement que Bruni lui-même se lamentait sur la domination de l'Étrurie par Rome, mais que ni lui, ni ses disciples à Florence et à Bologne ne possédaient des ressources intellectuelles significatives à l'extérieur de la tradition classique pour donner une formulation aux doctrines de la souveraineté populaire ou locale. Et en se raccrochant à la tradition républicaine, il réinscrivait dans la tradition florentine une armature qui aurait pour effet de légitimer la domination monarchique et d'autres formes de domination antérieures. Revenant à la transition vers la monarchie à Rome et à l'investiture du monarque avec la maestas, le fait de ces mouvements était de mettre à nu des contradictions que les formes républicaines de la République, de différenciation sociale et les idéologies d'égalité citoyenne avaient travaillé à masquer. Ce fut, je le soutiens, La réflexion nue et sans pitié sur la logique de la supériorité qui permit aux auteurs romains de la période impériale de faire entrer dans le discours politique théorique l'idée que la liberté se différenciait de la domination, ce qui devint pour eux un problème existentiel plus important que la différenciation de la liberté des actes contingents d'interférence, qui avait été la préoccupation principale des réflexions républicaines sur la liberté et qui resta dans la philosophie juridique romaine la seule liberté qui comptait. En d'autres mots, ce fut la domination insistante de l'empereur sur les plus hautes sphères de l'aristocratie romaine qui rendit l'esclavage intelligible comme l'autre de leur propre liberté, en une sorte de cartographie métaphorique de la condition des élites. Comme corollaire de mon troisième point, permettez-moi une observation. Selon mon interprétation, l'histoire de la maestas représente la résolution dans un contexte romain du problème que posait dans la tradition de la fin de la République l'insistance à mettre en corrélation ontologique et analytique la liberté de l'individu et la politique. Comme Jean Pocock y a plusieurs fois insisté, sans aller aussi loin cependant, le cas romain lui-même suggère la fausseté de cette logique, ainsi que ses dangers. Car aux racines même de la tradition républicaine se trouve une république libre qui, ayant acheté sa liberté aux dépens de celle des autres, fut à la fin contrainte par son propre succès d'internaliser les structures mêmes de domination par lesquelles elle avait imaginé que sa liberté serait préservée. Je mets part aujourd'hui la conclusion que j'ai écrite pour cette conférence dans son ensemble. Permettez-moi de conclure avec quelques mots sur les cours. J'ai fait valoir que le droit civil ne peut être compris que par l'étude de son histoire comme un code de loi qui a été développé pour et dans un empire, dans et pour un empire. Dans les deux premières lectures, j'ai affirmé que le mécanisme formel inventé à l'époque classique à réagir aux changements ont été réactivés au IIIe siècle et au-delà, afin d'adapter la loi aux réalités sociales, politiques, économiques et linguistiques qui ont été comprises par eux comme structurellement similaires à des changements survenus dans les municipalisations de l'Italie. Dans la troisième conférence, j'ai essayé de décrire un aspect important de l'influence du droit civil sur le droit international public et aujourd'hui d'analyser l'influence des doctrines de le droit international tel qu'il était sur le droit civil. Et en conclusion, je tiens à remercier une nouvelle fois professeur Jean Scheidt pour l'invitation au collège et je remercie aussi vous pour votre attention. Merci.